Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage, ils sont en train de s'installer pour notre plus grand plaisir, nos deux déchiffreurs du jour, pour un bon quart d'heure. Christian Fontaine est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, directeur de la rédaction du magazine Le Revenu, puis Félix Baron qui est avec nous. Bonjour Félix.
Bonjour Guillaume, bonjour Christian.
Fondateur du club des investisseurs indépendants. Bah oui, c'est le chiffre qu'on va décrypter. Alors ce sont les chiffres, parce que tout est en train de tomber en cascade au moment où on se parle. Bah oui, on nous attendait, on nous donnait les chiffres pour 11h de l'inflation en zone euro. Alors je rappelle, donc la France... spectaculaire, 1,7% fin mars, nous sommes fin mars, 0,9 fin février, vous voyez on en est. Et à l'instant, je vous donne le chiffre du côté de la zone euro, nous sommes à 2,5%
à la fin mars. Pondéré par l'Allemagne.
Oui, bah oui, oui.
Heureusement.
Oui, oui.
Ça commence à faire.
En l'espace de quelques semaines. Enfin, Christian, je veux dire, c'est quand même. Vous attendez des chiffres de cette ampleur, vous?
Bien sûr. Alors, pas forcément. C'est vrai que. Alors, 1,7 pour la petite anecdote, il me semble que c'est exactement la projection de la Banque de France pour l'ensemble de l'année. Alors, on va voir ce que ça va donner. Par contre, c'est vrai que c'est un doublement, un quasi-doublement de l'inflation d'un mois sur l'autre, tiré bien sûr par les hydrocarbures, par la hausse du prix du gaz. En fait, l'inflation est vraiment un paramètre essentiel à suivre lorsqu'aujourd'hui on est investisseur en bourse. D'abord, oui. Parce que l'inflation va déterminer l'évolution de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. Oui, ensuite, et ça on le dit beaucoup moins parce que cela va ou cela devrait directement impacter la politique des investisseurs. Et là, si vous permettez un petit zoom. La plupart des épargnants, lorsqu'ils placent leur argent en France sur des livrets A ou sur un contrat d'assurance vie en euros, si à la fin de l'année, ils n'ont effectué aucun retrait, aucun versement, et s'ils ont plus d'argent en compte qu'en début d'année, ils sont contents. Attention, là, c'est parce qu'on regarde la performance, le taux nominal, le taux d'intérêt nominal. Mais ce qui compte, c'est la performance réelle, ouais. C'est-à-dire déduction faite de l'inflation. Ouais. Et si à la fin de l'année, vous avez plus d'argent sur votre livret A, mais que vous pouvez acheter moins de biens et services, ça pique, ça coince. Et les épargnants ne se rendent pas assez compte de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat de leur épargne. C'est pas pour rien que Keynes disait que l'inflation c'était l'euthanasie du rentier. Et souvenez-vous ce qui s'est passé en 2022 et 2023, ces deux années où l'inflation était autour de 5%.
Oui.
En France, il y a environ 2000 milliards d'euros placés sur des placements à taux fixe. Ça signifie que ces deux années-là, il y a eu des dizaines de milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat sur l'épargne des Français. Et ce qu'il faudrait absolument éviter en 2026, c'est un phénomène identique ou semblable à ce qui s'est passé en 2023 et 2022 et 2023. C'est pour ça qu'il faut surveiller l'inflation comme le lait sur le feu. C'est pour ça que si l'inflation accélère, il faut absolument s'interroger sur son allocation d'actifs et notamment sur le poids des placements à taux fixes dans son patrimoine et oser aller un tout petit peu plus vers les actions, voire les actions américaines qui sont le plus protégées aujourd'hui dans la crise puisque les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole et de gaz.
Alors, on va avoir encore un petit peu du temps, évidemment, pour donner quelques pistes, évidemment.
Mais
Félix, pareil, voilà, même question. C'est cette inflation qu'on n'attendait pas et qui revient au galop.
2020, ce serait
Alors, je vous donne donc 2,5 en zone euro fin mars contre 1,9 en février. Donc, ça a été plus violent en France qu'à l'échelle de la zone euro en proportion, finalement. Voilà ce que dit.
Oui, globalement, c'est normal que les deux locomotives industrielles de l'Europe, à savoir l'Allemagne et la France, soient plus impactées par l'augmentation du coût des matières premières que la Pologne ou la Lituanie.
Évidemment.
Parce qu'on est des plus gros consommateurs d'énergie. Mais tout de suite, on peut le dire par rapport à l'Allemagne, qui a une projection à plus de 2,8%. Peut-être qu'elle aurait dû se mettre au nucléaire. C'est là où on est globalement comparativement.
Mais vous avez vu que les esprits changent en Allemagne. Les discours commencent à changer un petit peu.
Oui, mais les choses mettent du temps à être construites.
Oui, oui, donc, ça met du temps.
On a peut-être un coup à jouer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on pensait vraiment en début d'année, et c'est là où on coïncidait peut-être avec les plus hauts historiques boursiers, que 2026, ça serait l'année de la détente, ou en tout cas de la baisse des taux. Et on est probablement même 95% à mon avis, l'année du retour de l'inflation. Et attention, ce n'est pas une inflation qui va baisser quand le conflit en Iran sera arrêté. Malheureusement, quand l'inflation est liée à un choc d'offres, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire à partir du pétrole, eh bien, elle est là pour durer. Pour une raison assez simple, non seulement vous avez le baril qui monte, donc une répercussion sur les coûts, mais en plus de ça, vous avez une désorganisation du trafic mondial. Donc, vous avez deux effets qui s'ajoutent pour montrer, pour faire monter le pétrole. Donc,
plus des installations pétrolières ou gazières qui ont été touchées dans la région, dont on ne sait pas combien de temps elles vont remettre à redémarrer.
Ah mais oui, c'est ça. Et c'est, même si on a des réserves, en fait, les chocs d'offres sont toujours inflationnistes, sont toujours au démarrage de cycle inflationniste. Et le problème de l'inflation, c'est que c'est... Alors là, vous nous parlez, vous avez raison, de projections d'inflation qui montent rapidement, mais malheureusement, je suis désolé, ça n'est que le début, parce que l'inflation dans l'économie réelle, elle se propage lentement. Parce que vous avez d'abord une répercussion sur les coûts de l'énergie, mais ensuite sur les coûts industriels, le coût des intrants industriels pour, vous en parliez tout à l'heure, les Thalès, les Saint-Gobain, les Air Liquide, etc. Et puis au bout de la chaîne, en fait, c'est les coûts pour le panier de la ménagère, pour les loyers, pour les salaires, etc. Et ça, c'est des coûts qui ne baissent jamais. On ne va pas les baisser, c'est les loyers, les salaires, etc., une fois que la guerre est terminée. Donc, préparez-vous, messieurs, dames, mais 2026, c'est le retour, je ne sais pas si c'est une hyperinflation, mais d'une inflation forte, parce que la diffusion dans l'économie réelle à partir d'un choc d'offres, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Éventuellement, il y aura une détente sur le coût des matières premières, mais l'impact qui est fait finalement sur les biens de consommation et sur les services du quotidien, ça ne baisse jamais. Je suis désolé, j'ai des mauvaises nouvelles.
Tout va dépendre quand même de la, voilà. Tout va dépendre de la durée du conflit. Alors, je serais peut-être un peu moins pessimiste quand même sur Félix, sur cette hausse, sur ce choc d'offres. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de la conjoncture, il y a des phénomènes structurels qui expliquent que l'inflation pourrait repartir à terme. Et donc, les phénomènes structurels, vous les connaissez, vous en parlez souvent sur votre antenne et au revenu aussi. C'est bien sûr tout ce qui est transition énergétique, ça va coûter plus cher de se chauffer de façon propre, entre guillemets. Transition démographique, transition militaire, tout ça, il y a des raisons structurelles qui font que, réindustrialisation, qui font que les hausses des prix pourraient accélérer. En fait, il faut bien voir qu'à l'exception faite des deux années que j'ai citées tout à l'heure, 2022-2023, depuis 20 ans, en fait, l'inflation en France, c'est un phénomène quasiment, oublié, puisque l'inflation tournait autour de 1%. Et souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, on avait même des années avec de l'inflation à 0%.
Absolument.
Donc, c'est quelque chose que les épargnants ont oublié, en fait, d'intégrer la hausse des prix dans leur raisonnement. Et donc, il va falloir réintégrer ça et donc, forcément, aller chercher davantage de rendement pour éviter cette euthanasie.
Donnez-nous quelques pistes. Alors, on va se prendre quelques minutes pour donner quelques pistes, éventuellement. On voit bien que depuis un mois, finalement, aucun actif n'a vraiment été épargné. Donc, qu'est-ce qu'on va aller trouver au bout d'un mois qui n'est pas véritablement souffert?
On va directement rentrer dans une classe d'actifs particulière. Mais vous citiez Total tout à l'heure. Par exemple, là, c'est vraiment la plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de l'année.
45% donc, depuis le début de janvier.
45%, hein. Là, c'est une valeur qui fait plus que protéger contre le choc d'offres et de la hausse du prix du pétrole, à tel point qu'on peut même s'interroger sur aujourd'hui, est-ce que c'est pas le moment un tout petit peu de s'alléger ou de prendre, en tout cas, partiellement ses bénéfices. En période d'inflation, quelles sont les classes actives qui généralement en profitent? Alors, il y a effectivement les actions où les entreprises ont un vrai pricing power, et puis après ça, il y a tous les actifs réels. C'est vrai qu'a priori, normalement, l'immobilier, les forêts, les voitures de collection, a priori, les actifs réels protègent mieux de l'inflation, en tout cas que les placements à taux fixe type épargne réglementée, voire même assurance vie en euros. C'est pour ça que on conseille de diversifier son contrat d'assurance vie. C'est la fameuse stratégie 60-40 que j'exprime souvent sur votre antenne, 60% de fonds en euros et 40% investis en actions internationales. En tout cas, il faut vraiment, si on se place dans la mentalité de l'épargnant français qui joue les placements à taux fixe, il faut revenir et accepter de modifier un tout petit peu son mindset pour éventuellement placer autrement et ne pas être victime d'une accélération de l'inflation.
Félix Baron.
Moi, je suis d'accord avec Christian. En effet, il faut diversifier, il faut aller chercher des actifs réels, donc des actions. Mais le problème, si les marchés anticipent une baisse des taux, si les banques centrales n'ont pas le choix que d'augmenter les taux pour contrer l'inflation...
Qui anticipe encore une baisse des taux
mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la leçon à retenir, c'est qu'on pensait que les banques centrales pilotaient l'économie parce qu'elles pouvaient baisser les taux, mais on se rend compte qu'elles subissent encore une chose et que les matières premières contrôlent encore les banques centrales. Donc, on a encore un petit peu de souveraineté au-dessus des banques centrales liées au cours des matières premières. Mais pour revenir à cette histoire de hausse des taux qui est anticipée, s'il y a une hausse des taux, il y aura une baisse des valorisations. C'est mathématique. Donc, les valeurs de croissance, donc les valeurs tech, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est plus intéressant. C'est toujours aussi intéressant, mais ça va peut-être redevenir abordable ou moins cher. quoi qu'il en soit, on est quand même dans une rotation sectorielle.
Donc, les valeurs tech, vous dites, n'en sortiront pas indemnes, de toute façon.
Ah, bah, d'un point de vue.
Ce qui sera un bon prétexte pour dégonfler la bulle, au passage.
Enfin, oui, voilà, mais c'est, alors ça, c'est, pour le coup, c'est excellent, parce que s'il y a un choc d'offre qui permet de la dégonfler,
oui,
pour une question énergétique, à la limite, bon, il y aura peut-être un peu de friction sur le data center qui est très, qui est très énergivore.
Oui.
Mais,
c'est déjà un peu dans les cours, hein, si vous regardez l'évolution du Nasdaq ou l'évolution des valeurs de luxe à Paris et qui font des parcours. Il me semble que LVMH doit être l'une des plus fortes baisses du CAC 40 depuis le début de l'année.
Il y aura des courses à faire.
Oui, oui.
Je suis tout à fait d'accord avec Christian sur Total Energy. J'ajouterais que les majors pétrolières en France ou en Europe ou aux États-Unis, bah en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, en plus de la hausse du prix du baril, c'est que dans une période où 30% du trafic mondial de pétrole est perturbé, elles ont un pricing power. Si elles disent, bah, demain, nous, on vend 2,70 à la pompe, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on ne fera pas notre pétrole dans notre garage nous-mêmes. Donc, à court terme, c'est un play, vraiment un trade peut-être intéressant. Peut-être, comme le disait Christian, ça les jeux, je ne sais pas, mais acheter sur repli, parce que là, c'était 80 hier, 78 ce matin. Si vous voulez, entre guillemets, profiter du désordre logistique qui n'est pas encore résolu, là, c'est beaucoup plus court terme, vous avez les transporteurs, vous avez les GTT, par exemple, vous avez les Technip Énergie. Et puis, s'il y a vraiment une remontée des taux, bah là, c'est le secteur bancaire qui va en profiter.
Oui.
Je n'ai pas l'habitude de faire les louanges du secteur bancaire, mais BNP, Société Générale, Crédit Agricole SA, profiteraient mécaniquement d'une remontée des taux, puisqu'elles auraient augmenté leur marge d'intérêt, leur produit net bancaire, mathématiquement.
Christian.
Oui, non, effectivement, Félix vient de dire faire son marché. Effectivement, on peut commencer à se poser la question de faire son marché. Lorsqu'on regarde l'évolution des grands indices depuis le début de l'année, elle est trompeuse, puisqu'on est autour de moins 4, moins 5, a priori, des deux côtés de l'Atlantique.
Wall Street, on est à moins 8, oui, c'est ça, oui, à peu près.
Alors, par contre, il y a des très belles valeurs, Safran, BNP, Schneider, etc., où les baisses plutôt entre moins 10 et moins 20. Hein, Safran, ça doit frôler sur un mois les moins 20%. Donc là, on peut commencer à se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment d'y revenir? En tout cas, c'est plus intéressant au cours actuel qu'il y a un mois. Donc, commencer à faire son marché, commencer à regarder donc, les belles valeurs que vous n'avez pas en portefeuille, ça peut être intéressant. Et si vous n'avez que des valeurs de croissance, ben, c'est peut-être le moment de se positionner sur des valeurs cycliques qui sont un petit peu, je pense à Saint-Gobain, par exemple, un tout petit peu matraqué en ce moment. Si vous n'avez pas de bancaire, ben pourquoi pas commencer à se construire une petite ligne de BNP. Encore une fois, vraiment, hein, il faut bien penser la phrase de Warren Buffett. Hein, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut acheter? Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est dans un mois? Et Warren Buffett répondait toujours, mais ça dépend de votre situation personnelle. Moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend de ce que vous avez déjà en portefeuille. Mais commencer à faire son marché, ça peut être une bonne stratégie.
Félix.
Notamment sur Schneider Electric.
Oui.
Là, je notais religieusement ce que nous disait Christian. C'est une valeur qui vraiment a une épingle à tirer du jeu de l'IA, mais vraiment très importante, avec une forte croissance, notamment dans les interconnexions systèmes électriques des data centers. Elle va être assez discrète dans un contexte de taux qui remonte ou en tout cas de marché qui corrige. Et ça sera justement sur son repli l'occasion d'acheter, bah, pour moi, une des plus belles valeurs françaises qui a un potentiel de croissance. Pas infini, mais très important jusqu'à 2030, tant qu'on continue à construire l'infrastructure autour de l'IA.
Il est temps de faire son marché. Je voudrais avoir votre avis sur l'état du marché obligataire. Vous voyez, le 10 ans français, on s'est étendu, là, on est retombé aux alentours des 3,72, 3,73. Bon, on était à 3,86. C'est une semaine, ce qui était le niveau le plus élevé depuis juin 2009, qui n'est pas anodin. Vous êtes à cheval entre la crise des subprimes, c'est le début, le commencement, les prémices de la crise de la dette souveraine en zone euro. Ça vous inquiète ou pas, Christian?
On voit bien que la stratégie anglo-saxonne, puisque français, historiquement, la moitié d'actions et puis la moitié d'obligations, en fait, ne fonctionne pas trop en ce moment. Si vous voulez, le coussin amortisseur ne fonctionne pas. Nous, au revenu, on a plutôt tendance à conseiller, dans la situation actuelle, en fait, de toujours jouer le coussin obligataire via l'assurance vie en euros. On a en France un outil exceptionnel. Alors je sais bien que qui est l'assurance vie en euros, c'est en fait qui vous permet d'être investi sur les marchés obligataires tout en profitant d'une garantie sur le capital. Ça c'est essentiel parce que lorsque les taux augmentent, la valeur des obligations baisse et donc si vous en avez en portefeuille, vous perdez de la valeur. Alors, en France, il est très difficile pour les particuliers, voire quasiment impossible d'investir dans des obligations en direct. C'est pas le cas à l'étranger, mais en France, c'est le cas. Et donc le conseil du revenu, c'est de jouer les obligations plutôt via l'assurance croissance vient en euros. Et donc là, vous profitez plutôt d'une conjoncture favorable, puisqu'en fait, aujourd'hui, les assureurs collectent beaucoup et ils placent à des taux autour de 3,5, 4 %. Et donc, il y a un effet relutif. En fait, ça augmente la température moyenne du bain, c'est-à-dire en fait le rendement moyen du portefeuille.
Donc, il faut regarder. Oui, Félix, là-dessus. Donc,
vous avez... Un grand fan de l'assurance vie, mais il faut bien reconnaître ce qui est mathématique. Ouais. Oui, si aujourd'hui, vous pouvez placer de la trésorerie dans des fonds euros. Alors, la garantie du capital, j'y crois pas forcément, mais pour construire une poche éventuellement de distribution, c'est sûr qu'à 3,5, 4%, c'est plus intéressant qu'à 2 ans. Ce qu'il faudra voir, c'est quelle sera la capacité de ces assureurs-vie à verser toujours ces intérêts-là quand, dans 3, 4, 5 ans, les taux recommenceront à baisser. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, quand les banques centrales ne subissent plus les matières premières, elles se remettent à piloter l'économie en baissant les taux. C'est la seule manière.
Il ne faut pas faire peur aux Français sur l'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros, elle est solide. Elle a déjà connu des périodes de remontée des taux significatives. Les réserves sont importantes. Il y a une garantie contractuelle assureur par assureur. Je suis d'accord qu'en cas de crise systémique, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, l'assurance vie est un placement solide et c'est une façon astucieuse de jouer le coussin obligataire plutôt que d'investir dans des obligations en direct ou via donc, des fonds obligataires.
Le coussin amortisseur. Il nous reste 45 secondes sur l'or. Tiens, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on y retourne déjà ? Est-ce que vous croyez à la nouvelle remontada ?
L'or a toujours fait rêver et fait encore rêver depuis la nuit des temps. C'est sans doute préférable de se constituer un coussin amortisseur sur l'or aujourd'hui que par rapport à il y a un mois le cours a déjà bien. Voilà. Si vous êtes très inquiet pour l'avenir, pourquoi pas, mais plutôt à travers de l'or physique. Des pièces, des lingots, des lingotins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous allez sur de l'or papier, il y a toujours un problème de contrepartie. Et en cas de crise systémique, je dirais, il peut y avoir un défaut. Donc, effectivement, à hauteur de 5 à 10% de vos placements, pourquoi pas un peu d'or physique.
4569 l'once d'or aujourd'hui, Félix.
Ouais, non, mais moi, je retourne déjà ou est-ce... Bon. Je continue à en acheter tous les mois, je ne me pose pas la question parce que j'estime que le cours de l'or dépend des taux réels, du niveau des taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins le taux d'inflation.
Moins l'inflation.
Comme le taux d'inflation va avoir tendance à augmenter, même si les taux remontent, je pense quand même en taux réel, on va continuer à rester assez faible, voire négatif, et l'or a toujours augmenté pour ça. C'est plus vraiment l'or monte pendant les crises, c'est plus vraiment ça. Il monte quand les taux réels sont faibles ou négatifs.
Et ben voilà pour nos conseils du jour. Il est temps de faire son marché, en quelque sorte, de regarder d'un peu plus près ce qui se passe à l'aune de ces chiffres de l'inflation. Je vous rappelle donc, alors l'Italie, pareil, on est à 1,7 en mars sur un an, comme en France, et puis au niveau de la zone euro, donc 2,5%. On attend tout le détail des chiffres, pays par pays de la zone euro, qu'on va vous donner, bien sûr, d'ici midi sur BFM Business. Merci messieurs d'être passés. Christian Fontaine, directeur de la rédaction du magazine Le Revenu, Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Merci messieurs.